Quand on parle de décrochage, souvent on parle des élèves qui décrochent au collège. C'est-à-dire qu'on parle de ces élèves qui, juste avant la fin de la scolarité obligatoire, vers 15-16 ans, disons vers la fin du collège, sortent du cursus sans aucun diplôme et puis en ayant des trajectoires parfois un peu difficiles après l'école. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question, c'est comment ils étaient en primaire. Finalement, est-ce que c'est le collège qui, dirons-nous, crée le décrochage ou est-ce que c'est un décrochage latent en primaire et qu'on n'aperçoit pas forcément parce qu'ils sont obligés de venir à l'école. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question en primaire, peut-être même avant, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le système pour que nos élèves aient envie d'apprendre et envie de venir déjà à l'école.
L'idée que le décrochage scolaire, c'est pas seulement le lot de ceux qui sont désignés comme tels et pris en charge comme tels au moment du collège. Tous les travaux confirment que c'est quelque chose qui se construit avec des éléments multifactoriels. On connaît les incidences des situations sociales, familiales, d'un certain nombre d'événements familiaux qui viennent perturber la scolarité. Mais toutes les recherches confirment qu'il y a aussi un décrochage cognitif. Autrement dit, on parle des décrocheurs, qui sont en fait des décrocheurs qui ont commencé de décrocher dès l'école élémentaire et parfois même peut-être dès la maternelle. Autrement dit, si on veut travailler efficacement sur cette thématique-là, il faut commencer par, en quelque sorte, la dénaturaliser, parce qu'en la nommant, c'est comme si on désignait une catégorie à part. On pourrait dire que peut-être, du coup, être attentif à tous ces élèves qui parfois l'expriment de façon bruyante ou désordonnée en essayant d'échapper aux sollicitations de travailler qui leur sont faites, mais aussi aux élèves silencieux qui, pour autant, sont déjà plus là dans le travail qu'on essaye d'amorcer avec eux. Et donc, essayer de comprendre la logique de ces élèves-là, rentrer dans leur univers pour essayer de, justement, d'être dans l'anticipation, afin d'éviter que ne se cumulent des processus qui, petit à petit, finissent par aboutir à une disqualification qui est d'abord symbolique face au savoir, mais qui a tôt fait de se transformer en disqualification identitaire, c'est-à-dire des enfants qui disent « je suis nul ». Voilà.
Le décrochage, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'on peut discuter avec des gens qui vivent les mêmes choses depuis donc très longtemps. Je me dis que le but de l'action prioritaire dans les secteurs d'éducation prioritaire, c'est de garder la motivation des élèves. Je me suis fait taper sur les doigts par un inspecteur d'académie tout au début, dans les années 90, parce que j'avais osé dire que non, on ne rattraperait pas avec nos élèves le même niveau que les autres avaient en ayant des moyens supplémentaires, mais on pouvait leur garder l'envie d'apprendre et l'envie de découvrir. C'était pas le but. Le but, c'est qu'aux évaluations, ils aient les mêmes résultats que les autres. Mais je crois que c'est ça qui est important si on veut réussir à éviter que des élèves décrochent, qui continuent d'avoir envie d'apprendre. Ce qui ne veut pas dire que quoi qu'on fasse, on y arrive. On a des élèves en primaire dont on sait qu'ils vont décrocher.
Et la vraie question, c'est qu'est-ce que je mets en place pour que ça fasse sens pour les gamins? Parce que je pense que ceux qui décrochent, finalement, ce sont les plus sensibles à nos ruses pédagogiques et qui ne rentrent plus dans ce pacte-là. La rupture, elle est là, je pense, hein. C'est, à un moment donné, ils sont plus dupes de... Alors, ce qu'on appelle le contrat didactique que met en place l'école, hein, qui est... Et je crois que la vraie rupture des décrocheurs, elle est là. C'est qu'eux, ils sont pas dociles du tout. Ils sont en résistance par rapport à ça. Faire des apprentissages qui font sens, on l'a tous dit, ça fait longtemps qu'on le dit. Ensuite, qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place pour ça? Et ça veut dire derrière réinterroger le contenu de nos enseignements, pas tant le contenu, mais les conditions pédagogiques qu'on peut mettre en place et donc les activités mathématiques qu'on peut. On est trop dans le faire semblant, quoi, tout le temps.
J'ai toujours peur des termes qui font des attributions désignant l'erreur chez les élèves. On pourrait dire que c'est une appellation qui ferait descendre dans l'enseignement élémentaire, ce qui est déjà un peu le lot du collège. Parler d'élèves en difficulté, c'est quelque part risquer de glisser vers une naturalisation de difficultés qui serait inhérente à l'élève, qui n'interrogerait pas. les processus qui ont constitué, qui ont participé à constituer ces difficultés. Par contre, plutôt penser en termes de quelles sont les difficultés des élèves me semble plus intéressant. Voilà que du coup ça entraîne sur un travail d'analyse des difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Un deuxième type de difficulté pourrait être du côté de leur posture à l'égard du travail scolaire, de ces élèves qui pensent que le savoir est du côté de l'enseignant sans avoir perçu jusqu'au bout l'importance de leur engagement dans l'activité et de leur persévérance dans l'activité. Des élèves encore qui ont du mal à raccrocher ce qu'ils font à l'enjeu de la situation. Des élèves qui alternent entre une posture d'attente à l'égard de celui qui sait et un activisme qui est souvent, comme j'aime à le dire, sans repère et qui les fait un peu foncer dans le brouillard. On est là sur le rapport à l'apprentissage proprement dit et sur la question du rapport au langage de ces élèves qui pensent que lire, pour y revenir, c'est quand même une des pièces fortes. C'est essentiellement identifier successivement chacun des mots d'une phrase, quand d'autres ont bien compris que c'était mettre en cohérence, en articulation, chacun des niveaux pour construire une signification de la phrase, la raccrocher avec la phrase d'avant, avec la phrase d'après, et co-construire progressivement la signification du texte en l'aménageant au fur et à mesure de l'entrée dans le texte. Et du côté de l'écriture, avec des élèves qui, en tendance, pensent que et pour écrire, il faut avoir déjà des idées, que l'écriture relève du don, que écrire, ce n'est jamais que dire ce qu'on pense, quand d'autres ont compris que écrire, ça sert surtout à élaborer de la pensée et à mieux penser ce qu'on veut dire. À partir du moment où on considère que tous les élèves, sauf handicap majeur grave et avéré, peuvent apprendre, il s'agit après d'avoir l'humilité de reconnaître que peut-être on n'a pas encore su identifier l'endroit de leurs difficultés, l'endroit de ceux qui bloquent, mais ça c'est le travail des professionnels et c'est ce qui est devant nous.
Je pense que le mot principal pour moi c'est reconnaissance. C'est que l'enfant ou l'adolescent, il se sente reconnu pour ce qu'il est. Et que de proposer une activité dans laquelle l'enfant se sent reconnu, je pense que c'est le réconcilier avec l'institution scolaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, lui montrer effectivement qu'on est dans une interaction sociale et que pour rentrer, la société fonctionne ainsi et que pour pouvoir être admis dans cette société, mais encore faut-il qu'il ait envie d'y être admis. Au départ, ce n'est pas toujours le cas. Mais s'il a ce désir d'y être admis, il y a des codes et que les acquis scolaires font partie de ces codes. Et c'est, à mon avis, le lien, il se situe là. On est reconnaissance et après faire naître le désir de rentrer dans cette société avec les interactions qui la caractérisent.